Hey, c'est la 20e édition des RIDM.
Les RIDM?
Oui, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Hey, c'est la 20e édition des RIDM.
Les RIDM?
Oui, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Le festival où l'on retrouve des films engagés, captivants, aux démarches singulières.
Il y a aussi des essais expérimentaux et des courts-métrages. Un festival qui nous fait découvrir le monde.
Et nous fait rencontrer les cinéastes.
Les RIDM, c'est une foule d'activités et une salle dédiée aux projets interactifs.
En plus, il y a des shows gratuits au quartier général.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 9 au 19 novembre.
Là où toutes les histoires se rencontrent. Rendez-vous sur RIDM.ca.
Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca.
Francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pi, Fudge, Le Whistin Band, Dilarama, Eman et Wooper et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Bonjour à toutes et à tous, cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais je suis particulièrement content d'avoir Megan avec moi aujourd'hui pour qu'elle puisse me dire qu'on est rendu à quel numéro d'épisode?
155.
Merci, parce que j'étais plus là à ce point-ci.
On commençait à être mélangé, oui.
155, c'est un chiffre qui ne roule pas correctement dans la bouche, donc c'est un peu normal que je n'arrive pas, mais au moins Megan était là, Alexandre aurait pu donner un coup de main puisqu'il est co-directeur de la programmation.
Ouais, je checkais ça, mais plus vite que moi.
Stéphanie Roussel est aussi quelqu'un qui est très ordonné dans son calendrier, puisqu'elle est tout le temps occupée. Donc c'est un peu...
Non, mais toi aussi, t'es toujours occupée.
Moi, c'est un mensonge. C'est un très grand mensonge. Et quelque chose d'autre de mathématiques pour inclure Roxane.
Seigneur, je sais pas.
C'est correct. Ça, on n'a pas besoin de ça. Pas
besoin de... Le code HTML de sa couleur de cheveux, je ne sais pas.
Ah oui?
Ah, peut-être. Oh, sure.
Bien pensé. Et je suis Jean-Michel Bertillon. Je ne suis pas si important que ça. 155e épisode aujourd'hui. On parle... En fait, c'est plutôt ça, comme vous pouvez l'entendre radiophoniquement. On est en train de mettre nos petits gants parce que... les petits gants blancs, là, ceux-là qui tentent d'être propres. Parce que on... Oui, exactement. Ah, quelle mimerie! Quel mimicage! Quelle mimiquerie!
C'est pas du tout radiophonique.
Vraiment pas!
Change qu'on a une caméra maintenant.
Exactement! on se retrouve un peu... C'est ça, j'ai toujours un... J'ai des prudences radiophoniques à chaque fois qu'on s'attaque à quelque chose qui est trop d'actualité. Je raconte souvent les horreurs de l'épisode qu'on a fait sur GTA V aux gens qui voudraient peut-être réécouter pour voir ce déraillement assez...
Mais c'est pas assez une horreur, en même temps, c'est vraiment, ça prend le pouls d'un moment de critique. Et on peut revenir là-dessus puis voir les décalages qui se sont formés entre le moment où ce qu'on critiquait et maintenant. On pourrait dire que c'est pas complètement un flop, là.
Non, t'as raison. C'est juste, l'émission, moi, je considère qu'elle est un flop parce qu'on n'avait pas entretenu une certaine distance critique. On était trop près de l'objet.
Mm. Ben, en fait, près au point de GTA 5, c'est un jeu. On juste rapidement, GTA 5, c'est un jeu qui était massif, que la plupart n'avaient pas terminé, alors que, tu sais, bon, aujourd'hui, je te spoil, là, mais on va parler justement de Denis Villeneuve, mais notamment de Blade Runner. Puis Blade Runner, je veux dire, c'est sorti il y a 2 semaines. Tout le monde a eu le temps de digérer, de lire. Fais-tu 2 semaines?
Trois semaines. C'était le 6 octobre.
Bon, mais quand même, ça fait un mois. Tu sais, un mois. On va dire un mois, puis je veux dire, les gens ont eu le temps de digérer, de le voir une fois, deux fois, trois fois.
De réagir à chaud aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. qui ont réagi à chaud, donc on va réagir à chaud à ces critiques qui ont réagi à chaud.
On fait une gestion rapide.
Mais c'est là, tu vois, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est ce constat-là auquel je m'oppose. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on peut revenir sur quelque chose qui a trois semaines, un mois dans l'inconscient. Tu sais, on veut être réactif, et je comprends très, très bien comment est-ce que, pour nous, c'est assez important de rester à l'air du temps, et tout. Mais fondamentalement, puis là, c'est pas une orientation de l'émission, c'est vraiment une orientation, somme toute, très personnelle, j'ai l'impression que la majorité des analyses des objets de culture populaire se font de façon réactive, et on se donne pas une grande chance, puisque on veut être la personne qui sort la perle interprétative le plus rapidement possible pour avoir le upvote académique ou le upvote intellectuel, la petite gâchette facile. Pis...
le first.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est drôle comment ces comportements-là, on les propage nous autres ici. On est comme, ah ouais, mais t'as-tu remarqué que c'était tout en train de réécrire le livre rouge du communisme? Là, tout le monde est comme, quoi? Ah ouais, OK, il y a pas vu ça, là. Moi, je suis sorti de la salle il y a 7 minutes, il fallait que je ponde un article scientifique là-dessus. Je trouve ça vaguement épuisant. Puis, c'est ce qui fait que, bon, OK, 3 semaines, je suis prêt à l'accepter. 3 semaines, ça va être correct. 1 mois, ça va être un peu plus. Puis, je joue sur les mots, là, parce que là, on est à 5 jours d'un mois. Ouais. Peut-être que si on était dans 5 jours, je serais peut-être, OK.
Mais c'est ça. mais c'est ça, ouais, c'est parce que je pense qu'il faut le différencier cet épisode-là par rapport à l'épisode de GTA, parce que, comme je le redis encore une fois, l'épisode de GTA, on était dedans. Il y avait des gens qui n'avaient pas terminé le jeu, puis c'est un jeu massif, alors que Blade Runner, même si c'est une œuvre cinématographique majestueuse, ben c'est un film de 2h30.
Mais c'est sûr qu'il y a raison, parce que finalement, ça va être une émission sur doit-on parler des objets de la culture populaire lorsqu'ils sortent. On entend enfin ma voix, hein?
Oui, c'est ça, excuse-moi.
Moi aussi, je me demandais si on m'entendait. Donc,
quel micro t'as pris? OK, c'est parce qu'elle parle dans l'autre.
Okay. Ouais, c'est ça, je suis funky.
Mais c'est vrai,
agence du chaos.
C'est vrai, moi je suis d'accord avec Jean-Michel, parce que vu qu'il y a des critiques à chaud, on va moins être nuancé, ou en tout cas on va réagir aussi avec émotivité, au sens où il y a du monde qui vont avoir haï le film, il y a du monde qui vont avoir adoré, puis on va aussi vouloir réagir aux émotions des autres.
Hein. C'est vrai.
Parce que moi il y a peut-être des choses que je mettrais des bémols, mais là il y a eu tellement de hate sur un point que je vais me rallier de l'autre bord pour faire la balance, tandis que si ça faisait 2 heures par exemple, on serait moins dans ces émotions-là, puis on irait plus au creux de notre propre opinion à nous et moi, en réponse et en réaction aux opinions des autres.
Ouais, ça devient plus des conversations que des véritables analyses où une personne s'est assise puis en ressort avec comme, regarde, j'ai réfléchi à ça longtemps, j'ai l'impression que...
Mais c'est sûr que c'est un dialogue, puis si on le relit plus tard, les gens n'ont pas lu tous les articles que nous, on a lus, tandis que quand c'est dans l'air du temps, ben, on s'attend à ce que tout le monde ait un peu lu les mêmes choses et les mêmes références culturelles à ce moment-là, donc on répond à des choses que peut-être dans un an, personne ne va se rappeler ou personne ne va avoir lu quand ils vont
se repenser. Mais la nuance va émerger aussi à force d'avoir tous ces dialogues-là et à force de les répéter sur la place publique, si on veut.
Oui ou non, je ne sais pas à quel point est-ce qu'on se retrouve avec la nuance, qu'on se retrouve avec une grosse giblotte grise.
Ben, c'est pas ça la nuance du gris.
Mais dans un an, ça va être super intéressant de se repencher sur cette giblotte grise-là, puis de faire un dialogue avec un peu plus de distance, peut-être. Donc, c'est super intéressant, les réactions à chaud, pour construire plus tard le savoir.
On fait une partie d'archives en ce moment.
Donc, on enregistre l'émission aujourd'hui, et dans un an, on se promet qu'on revient ici intact. Roxane, tu dois porter la même perruque.
Deal.
Je m'en excuse.
Mais... moi, je la porte à tous les jours pour la prochaine année, jusqu'à temps que je revienne ici pour la porter.
J'espère qu'on perdra pas ta mémoire.
Joy, all day. C'est ça, tant qu'il n'y a pas de petite madame méchante qui step sur ma télécommande, tout va bien aller.
Méchante?
OK. Mais elle est méchante d'avoir steppé sur la télécommande, là, c'était beaucoup gentil.
Moi, je pense que c'était une erreur.
C'était super gratuit, en plus.
C'était vraiment gratuit. Mais en tout cas, on en reparlera.
Donc, vous l'aurez deviné, on parle de la carrière, non pas de la carrière, pardonnez-moi, de Denis Villeneuve, mais plus de son orientation vers le cinéma de genre science-fictionnel. Depuis les dernières années, moi, je voulais vraiment tirer la couverte dans les grands extrêmes en incluant LMI dedans. Je me suis fait un peu taper sur les doigts par la communauté scientifique interne de Pop en Stock.
I couldn't like.
Ouais, c'était comme... Mais oui, c'est vrai, comment qu'on est encore proie à ces comportements.
Sad react.
Ouais. Sad react only.
Je me sens vraiment vieux quand je suis autour de vous autres. Ça
on s'excuse.
Mais tu l'es un petit peu comparativement à nous.
Ah,
oh, pas de temps, là.
La rumeur court que oui. Donc, on exclut. Bon, c'est ça. Je. potentiellement, ben, il va falloir qu'on l'exclue, mais je pense qu'il y avait un cas à faire avec son segment dans Cosmos, Cosmos et Agriculture, mais je pense pas qu'il y a personne qui l'a vu ici dans les 10 dernières années. Moi, ça fait un crise de botte que je n'ai pas vu ce film-là. On exclut Prisoner parce que c'est un film de suspense coréen plus que n'importe quoi d'autre. On exclut Incendie, on exclut...
Sicario.
Sicario. On exclura aussi Bulle dans la Maelstrom, malgré qu'un poisson qui parle, c'est pas nécessairement dans la science fictionnelle.
C'est plus du fantastique, c'est plus un conte. Moi, je trouvais que ça se rapprochait des contes tchèques, en tout cas, de cette atmosphère-là, un peu.
Tu vois, ça, j'aime ça. On est capable, 10 ans plus tard, et peut-être même plus dans le cas de Maelstrom, de faire une interprétation conte tchèque du cinéma de 2009. Merci, Stéphanie. On exclut donc tous ces films-là pour essentiellement parler de Rival et Blade Runner 2049 et pour exaucer les vœux de Joyce. Si dans le fond, on va peut-être parler un peu de Dune.
Mettons, on va finir avec deux phrases de conclusion là-dessus.
Peut-être, ah non, mais au moins 5 minutes. Là. Okay. Il faut en parler.
Non, en même temps, ça devient un peu l'antithèse de mon introduction parce que là, on va commencer à parler de façon érudite de quelque chose qui.
Non, mais en fait, il faut parler de nos peurs, de nos inquiétudes, de notre appréhension face à ce monstre de science-fiction, ce légendaire qu'on attend depuis 45 ans.
Arrêtez avec vos peurs, là.
Non, ouais. En même temps, on peut spéculer à partir. Si on réussit à tirer quelques semi-conclusions à partir. Des liens qui peuvent se former entre le style cinématographique, si on peut dire, de Denis Villeneuve, en fait, son approche de la science-fiction. On peut essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec un Dune, ou peut-être le comparer avec le film de David Lynch aussi, ou...
on peut comparer beaucoup de choses avec le film de David Lynch. Sting en chest.
Hey, je me suis complètement trompé. C'est pas Cosmos et Agriculture, c'est Chainetium qui est le segment de Denis Villeneuve dans Cosmos. Il faut quand même que je fasse bien attention. Je fais beaucoup d'erreurs à radio dernièrement. étrangement, je suis un peu en train de... Je veux pas troubler votre fête du tout, là, mais la confirmation du Dune, est-ce qu'elle est total?
Oui.
Oui, c'est sorti, je pense que genre en même temps que Blade Runner, à peu près. Là.
J'aimerais, un peu avant, je pense.
J'aimerais croire que c'est le cas. C'est... IMDB traîne du pied, alors.
OK, peut-être, mais non, mais il me semble que c'était officiellement confirmé que c'était Denis Villeneuve qui allait diriger Dune, mais il n'y avait rien d'autre encore de confirmé. Là.
Je vérifie à l'instant, c'est les joies du direct, mais Legendary Pictures aurait pris le...
Oui, ben oui, ben c'est eux autres qui ont fait Blade Runner aussi. Là.
Bon, c'est ça.
OK, bon, c'est bon, je veux juste être certain que l'histoire ne ferait pas de...
En fait, ça date du 1er février.
Non, il avait annoncé que peut-être c'était lui.
On annonce que peut-être, tout le monde.
OK.
Entre peu importe, là, mais si c'est pas officiel, c'est très
officiel. Non, c'est officiel. C'est très officiel.
OK. Ouais. Bon, ben au moins, on a une assurance par rapport à l'avenir.
C'est IMDB.
Même 1er février, moi, j'ai un article ici qui dit c'est officiel. Bon. Fait que c'est officiel.
Okay. Puis IMDB le dit.
Merci à notre équipe d'assurance qualité.
Merci l'Internet.
Plus vite que leur ombre.
Très, très, très bien dit.
Pas comme Scully, appeler l'Internet pour. Confirmer tout ça.
Je comprends pas le gag, mais il me fait
aujourd'hui. Oh, c'est ça. I rock les cheveux, Scully. Mais Megan, tu voulais partir en parlant un peu plus de Rival.
Oui, on va commencer peut-être par Arrival parce que je pense qu'on a un petit peu moins de choses à dire que sur Blade Runner. Mais il est vraiment... en fait, parce que j'avais fait l'année dernière, quand le film est sorti, une émission avec les Amazones en compagnie de, évidemment, l'animatrice Elisabeth et Ariane Préfontaine, qui est très intéressante. Donc, je vous invite, je me fais de la pub et je vous invite à aller l'écouter d'abord.
Blague facile.
Mais on avait parlé beaucoup, puis ça peut nous introduire un peu à Blade Runner qui le fait de façon plus extensive sur un 3 heures de cinéma, mais Arrival, premièrement, c'est une adaptation donc d'une nouvelle dont j'ai complètement oublié le titre. Et
Équipe Google, s'il vous plaît. Merci.
C'est un point avec mon 5% de batterie.
Let's go.
Story of your life.
Story of your life.
Donc, c'est ça. J'en parlais un peu aussi avec quelques gens qui n'aiment pas tant l'œuvre de Denis Villeneuve, mais ils disaient que c'était une de ses œuvres les plus...
incontestablement géniale.
Ouais.
C'est peut-être pas les mots qu'il a employés, mais...
Ces gens-là n'ont pas une maîtrise du langage français.
C'est un des films les plus prudents, récemment, parce que c'est une adaptation. Puis c'est une adaptation quand même fidèle de la nouvelle que j'ai lue, qui est très, très intéressante aussi.
Prudent?
Oui, c'est ça. Mais il y avait beaucoup de critiques. On va en parler ouvertement. Donc, Denis Villeneuve est très critiqué sur ce traitement qu'il fait par des personnages féminins qui se font... pas mal traité de punching bag, surtout dans Sicario, puis les personnages féminins sont pas très bien traités dans les films habituellement, donc ça c'était un des films les plus prudents de ce point de vue-là, parce que c'est un personnage féminin intéressant, complexe, mais en même temps, elle est toute seule. Ça passe le test de Bechdel parce qu'elle parle avec sa fille. C'est ça.
Ouais, ok.
Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment... pour aller plus du côté cinématographie, il y a un traitement de l'espace et du son et aussi du rythme cinématographique dans Arrival qu'on ne voit pas souvent dans les films mainstream de science-fiction aujourd'hui. Donc, mm-hmm. on est habitué à des films qui vont vite, à de l'action, à des vaisseaux spatiaux, à des trucs en stainless steel, puis des scénarios un peu boboches, pas très bien écrits. Là, on a, avec Arrival, il y a comme quelque chose qui change un petit peu dans notre perception des films de science-fiction. C'est très lent. Le son est vraiment très immersif. On voit quand on rentre... Moi, j'allais voir au cinéma, c'était super impressionnant. Donc, on rentre vraiment dans les décors avec l'utilisation du son qui est
un petit peu... Puis on gagne un Oscar pour le son.
Oui, oui, le travail de son est quand même exceptionnel. Non?
C'est ça. Et toutes les scènes sont très lentes et c'est très... justement, c'est un autre rythme qui reprend aussi dans Blade Runner et qui ça fait que c'est un traitement de la science-fiction qui, moi, je dirais, en tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel, qui est très près de ce que la littérature et le genre science-fictionnel est plus largement.
Moi, je suis d'accord.
Ouais, c'est ça. Parce qu'on est habitué de voir un cinéma de science-fiction qui est très hybride. On pense à Alien, mm-hmm. qui est un cinéma science-fiction horreur. Les films de science-fiction comme, je dirais, The Martian, c'est borderline film d'action aussi, là. Donc, c'est juste des films de Ridley Scott, ça va pas bien. Non, mais peut-être que j'ai pas vu District 9, mais.
Ouais, mais qui se retrouvait plus dans la parabole sociale, mais tu pourrais peut-être inclure.
Fun footage, on peut dire que c'est un genre, mais bon.
Non, pas nécessairement, mais là, je pense que les grands fleurons, je dirais, modernes par rapport à la science-fiction fonctionnelle, ça serait fonctionnel, là, je veux dire, des codes beaucoup plus classiques, ça serait. Pardonnez-moi, là, son nom m'échappe totalement, le fils de David Bowie qui a réalisé Warcraft, mais qui a aussi réalisé Moon.
Duncan Jones.
Duncan Jones, exactement, qui avait réussi un coup de maître avec une œuvre assez minimaliste en Moon. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui...
Science-fictionnellement.
Ouais, c'est ça. Ou c'est les croisés avec des drames de mœurs ou quelque chose. Tu sais, il y a toujours quelque chose de croisé, alors que... C'est sûr qu'Arrival le fait un peu parce que ça inclut... c'est très humain comme film, mais au final, la science-fiction, c'est pas juste des univers, là. C'est très humain comme genre aussi parce qu'on parle un peu de notre société, mais c'est très intime. Avec Blade Runner, c'est complètement éclaté, puis ça a le rapport aussi à qu'est-ce que Blade Runner est. Et selon moi, c'est ce qui définit la science-fiction, surtout comme genre littéraire, c'est une œuvre de world-building. On a créé un monde, on ne crée pas une histoire. Et dans cette histoire-là, dans ce monde-là, il va pouvoir émerger plusieurs histoires, plusieurs personnages qui vont avoir chacun leur backstory. Fait qu'à partir de là, on peut essayer d'extrapoler.
Mais ce qui est intéressant avec l'idée du world building aussi, c'est que Blade Runner, le film original à la base, et en fait, c'est un monde qui est créé à partir d'un monde qui est celui de Philip K. Dick, puis le Blade Runner 2049 est un monde créé à partir d'un monde qui a été créé à partir d'un monde. Donc, c'est une espèce de plusieurs couches de monde. Mm-hmm. Puis je trouve que, en tout cas, Blade Runner 2049, ce qu'il réussit à faire bien, en mon sens, c'est de prendre justement le monde de Philip K. Dick et de le rattacher à celui du premier film de Ridley Scott. Pas Ridley Scott, excuse-moi. Je suis en train de comme. Dire n'importe quoi là.
Je
mélangeais dans mes noms aujourd'hui. Il a tout fait. Je me suis dit, t'as nommé genre 6 films de Ridley Scott, donc clairement ça va pas être
lui. Mais c'est encore lui.
C'est toujours lui.
Il est là, il est dans le coin du studio, il nous regarde.
Il me regarde, puis il est comme. Nope. Ah.
Le moins possible, s'il vous plaît. Ça me rend très, très inconfortable d'avoir des octogénaires qui me regardent au point de pièce.
Des Écossais fâchés.
Ouais, c'est ça.
Donc, non, oui, c'est ça. Donc, je trouve que, justement, c'est ce qui a été bien fait dans... Il y a plein d'autres choses que je trouve qui ont été bien faites dans Blade Runner 2049. C'est un peu un spoiler que j'ai adoré ce film-là, mais justement, le world-building est ce qui, je pense... est le mieux réussi en ce sens qu'il combine bien le monde littéraire et le monde du premier
mais
film.
Mais c'est une bonne extension de la première adaptation parce que la première adaptation, moi j'ai pas lu le roman, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est vraiment une adaptation de l'esthétique.
Ben,
en fait, il a créé une esthétique à partir d'une histoire.
Oui, absolument.
Donc c'est ça, on joue dans les thèmes, mais c'était vraiment plus de créer un univers visuel et... sonore aussi, là, parce que les deux vont nécessairement ensemble encore plus en 2049.
Ouais. Exactement. Essentiellement, mm-hmm. il y a genre à peu près trois trucs qui ont été repris de Android's Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick. C'est l'idée du Blade Runner, justement, mm-hmm. l'idée des réplicants et l'espèce de ville un peu post-apocalyptique dans laquelle les personnages se déplacent. Puis c'est, honnêtement, c'est à peu près tout. Là.
Essentiellement, oui.
Et je veux dire, mm-hmm. parce qu'il y a tellement... Ben, on reprend un peu les thèmes, là, si on veut, parce qu'il y a quand même le thème de l'empathie qui est assez fort dans la nouvelle, qui est très centrale, en fait, à la nouvelle. C'est repris un peu dans le film avec la question de l'humanité, mais c'est vraiment plus poussé dans le 2049 ouais. que ce l'était dans le premier Blade Runner, mais parce que là, c'est vraiment la question qu'est-ce qui différencie l'être humain du robot. Fait que c'est à peu près tout, là, ce qui est repris.
Mais c'est drôle parce que j'avais peur de reculer trop dans l'émission en ajoutant ce commentaire-là, mais qu'est-ce que t'es en train de dire, Roxane, pour moi, est très, très pertinent par rapport à la fois de Rival et Blade Runner. Mm-hmm. Parce que il y a quelque chose qui existe chez les replicants dans Blade Runner qui est de l'ordre de l'intangible. On sait qu'ils sont reproduits à un niveau d'exactitude qui est, du moins pour le premier film, tellement précis que c'est un test un peu abstrait qui fait en sorte qu'on est capable de distinguer mm-hmm. une véritable entité biologique.
Le Void Camp,
exactement. Mais il existe essentiellement le même genre d'insubstantiel, si je peux dire, auprès du personnage de Amy Adams dans Arrival. Elle est fondamentalement humaine, mais rendue à la fin du film, elle transcende le temps. Mm-hmm. Et on ne peut
elle devient post-humaine.
Ben, au-delà qu'elle devienne post-humaine.
Mais elle devient comme une nouvelle humanité, une espèce de transhumaniste qui se crée un peu en elle. Là.
Il y a un attribut qu'elle possède qui est invérifiable, mm-hmm. mais qui la rend quelque chose d'autre. Et le film est dans peut-être son plus gros drame ou celui qui m'a le plus tenu à la gorge, et la mesure entre une personne qui, comme Amy Adams, comprend la non-linéarité du temps et le personnage de Jeremy Renner qui, lui, ne la comprend pas. Mm-hmm. Donc, les liens la personne qui a une compréhension, si je peux dire, macrocosmique des liens de causalité dans le monde vis-à-vis quelqu'un qui, lui, doit tout voir de manière linéaire. C'est deux choses qui sont, comme on pourrait dire, à l'œil nu, indiscernable. On ne peut pas prendre ces deux humains-là et dire « Regarde, il y a quelque chose qui les différencie fondamentalement. » Il n'y en a pas. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est différent. Puis c'est ce qui fait qu'on doit séparer l'humanité. Mais c'est dans cette... excuse-moi, Stéphanie, je te vois intervenir.
Mais là, j'avais juste ajouté, en fait, que dans The Arrival, c'est pas tant d'un post-humaniste que la théorie, qui est très polémique, là, sur la construction de la pensée à travers le langage. Donc, c'est parce que on parle d'une certaine façon, on a acquéri une langue, puis des codes dans la langue, qu'on est capable de construire notre pensée, puis d'avoir une perception du monde. Donc, elle, en comprenant l'autre langue, elle comprend un...
Oui, mais elle devient post-humaine au sens où c'est une humanité augmentée. Elle peut se promener, justement, grâce à ce... Mm-hmm. C'est ça, de pouvoir-là entre les époques, et dans le film, c'est pas dans la nouvelle, ça a été ajouté dans le film, mais quand elle appelle le président, ou je sais plus, le général chinois, puis ils ont une discussion, puis elle peut lui dire un secret qu'il lui a dit, c'est de là le post-humanisme, c'est juste comme humanité augmentée, quelque chose de plus, mais ça part de ça, oui.
C'est ça, cette hypothèse-là que tu mentionnes, c'est la Sapir-Whorf, mais la Sapir-Whorf, c'est beaucoup plus dans l'idée qu'on façonne une réalité avec les outils linguistiques qu'on a pour la décrire. Puis c'est venu avec toute cette idée-là là, qu'il y a 26 mots pour décrire neige, qui est entièrement faux. Là. Ça vaut la peine de le mentionner une fois de temps en temps parce que les gens aiment ça.
Ça l'a rappelé un peu.
Ouais, non, mais c'est que ça fait beaucoup de millage, cette histoire-là. Ouais. C'est pas tant
le
cas que ça.
J'ai lu un article récemment de, justement, Louis Yamslev qui reprend encore cette affaire.
C'est ça. Bon. tout ça pour dire, c'est qu'il y a quelque chose dans avant et après cette découverte-là. Tu sais, au-delà de... Oui, effectivement, il y a comme un gros travail linguistique qui s'est fait dans Arrival, c'est que dans l'humanité, il y a, avant d'avoir compris ça, avant d'avoir compris qu'on existe à l'extérieur du temps et après l'avoir compris. Et c'est aussi, si je reviens un peu à Roy Batty dans le premier Blade Runner, l'existence à l'intérieur et à l'extérieur du temps est un enjeu pour les replicants également. Fait qu'il y a des parallèles à faire entre ces deux films-là, puis ça me permet de pas dire « Ah, Roxane, ton analyse est bonne, mais j'aimerais ça retourner à Arrival. » Je pense qu'il y a des problématiques en commun entre ces deux films.
Absolument, oui.
Mais aussi, tu parlais d'empathie tantôt, le fait que le personnage d'Amy Adams, dont j'ai oublié le nom...
Malheureusement, je peux pas...
Louise...
Ouais?
Louise quelque chose?
Louisa ou quelque chose comme ça.
Je te dis ça à l'instant, OK? Louise Banks.
Voilà. Oui, c'est ça, mais sa nouvelle perception du temps, là, qu'est-ce que tu disais, Jean-Michel, qui est intangible, mais qui est nécessairement différent, lui donne une vision de l'empathie et de ses émotions et de comment réagir justement aux événements tragiques qui vont arriver dans sa vie, c'est complètement différent que celle de Jeremy Renner. Justement.
Absolument.
C'est ça, il y a une modification de la manière d'approcher la vie qui change, puis c'est aussi vrai dans Arrival que dans Blade Runner.
Puis en plus, dans Blade Runner, en fait, c'est quelque chose qui arrive très tôt dans le film, quand Kay se rend compte qu'il est peut-être plus humain que ce qu'il pensait. Mm-hmm. Ça arrive à peu près genre au milieu du film, même pas, même plus tôt que ça. Et je veux dire, la seconde partie du film est au complet essayer de comprendre ce que ça veut dire maintenant qu'on comprend que peut-être qu'on est plus qu'un simple robot qui obéit aux
règles.
Ou
quand ils ont la discussion, je dis « Ah, j'ai jamais fait ça avant, quoi, tuer quelqu'un avec un âme? » Puis il dit « Ah, ben, tu sais, toi, t'en as pas d'âme, puis tu t'es bien porté jusqu'à présent, là. »
Exact.
Cette discussion-là.
Fait que ça arrive très tôt, cette discussion-là, dans le film, et je pense que, la deuxième moitié, ou même les deux tiers du film, après, sont un peu dédiés à explorer cette question-là, qui est aussi, explorée dans Arrival à 100%, là.
C'est très Dickien, là, toutes ces questions-là aussi. Là.
C'est très, très Dickien. C'est un peu... C'est parce que l'affaire, c'est que c'est exploré de manière différente par Philip K. Dick, je dirais. Je sais pas, corrige-moi, ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu de Philip K. Dick, mais c'est moins contemplatif, je dirais, comme...
C'est bien dit.
Mais moi, je trouve ça quand même contemplatif, les œuvres. Il se passe pas une foule d'action non plus. Mais c'est assez lent. T'es assez dans la description de la réalité, puis là, tu sors d'une description à l'autre, puis peut-être qu'il
est
plus rythmé,
je pense. Parce que, tu sais, Philip K. Dick, c'est un peu genre, ce que j'ai lu récemment, je pense que c'est dans la préface de Do Androids Dream of Electric Sheep, je me souviens plus exactement l'édition que j'ai, mais l'auteur dit que Philip K. Dick décrit en un paragraphe ce que des gens passeraient un roman au complet à décrire. Fait que c'est un peu en ce sens-là que je dis que c'est un peu absurde, dans ce sens qu'il va juste passer sur quelque chose de super important à peu près 4 lignes, puis ta réflexion vient pas du texte lui-même, mais vient de ce qui se passe en parallèle au texte. Fait que tu passes d'un paragraphe à l'autre, puis tu te dis, OK, il manque quelque chose, puis ta réflexion émerge de ce vide-là qui est laissé un peu par l'écriture. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un peu différent comme mode de contemplation, je pense, versus les films comme Arrival et Blade Runner 2049, qui sont vraiment plus... c'est littéralement contemplatif, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un grand... gros élément de contemplation qui est inséré dans ce film.
Beaucoup plus dans 2049 dans le premier.
Ah mon Dieu, mais il n'y en a pas dans Blade Runner 1. Blade Runner 1, pauvre.
Mais.
Blade Runner 1.
Mais j'hésitais. J'hésitais à participer à l'émission au début parce que j'étais pas certain que j'avais aimé ça, Blade Runner 2049. Puis je crois que j'aime ça comme je crois que j'aime le premier Blade Runner aussi. C'est un peu. J'ai une relation particulière avec ce film-là.
Mais je me souviens, on l'avait écouté ensemble. L'avais écouté après la première fois. Ça a pris une couple de semaines avant.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai passé les deux jours suivants mon visionnement de Blade Runner 2049. Je n'ai que pensé à Blade Runner 2049 et je me dis, bon, si j'y pense, ben.
Mais c'est exactement ça doit être bien. Là que je dis que ça ramène beaucoup d'éléments de l'écriture de Philip K. Dick avec 2049 parce qu'il y a justement cette idée-là de. Il y a beaucoup, beaucoup de nos réflexions qui ont émergé de l'absence de connexion au niveau du scénario. Il y a plein de trucs qui émergent justement du fait que, le scénario passe outre certains détails qui sont très, très importants et qui nous poussent à remplir justement les vides nous-mêmes.
Juste dans le traitement de l'espace.
C'est ça, mais justement, parler de remplir, en fait, c'est que dans les deux cas, ce qui m'a amené à réfléchir suite à mes deux visionnements de Blade Runner, c'est justement...
Le 1 ou le 2049?
Les deux. Okay. Les deux en fait, c'est j'ai ressenti un malaise profond.
Sure.
D'un côté, on sentait un peu, je sais pas comment dire, il y a des signes, tout le monde donne des signes, OK, c'est cool. Pas agoraphobe, dans le cas du premier, je sais pas, agoraphobe...
C'est claustrophobe. Quoi,
claustrophobe, mais
ça,
peut-être agoraphobe.
Les deux.
Puis,
un peu des deux,
un peu des deux. Il y a beaucoup de monde dans le premier Blade Runner, mais t'as l'impression qu'il n'y a pas de liberté, pas d'espace, tu peux pas circuler, il n'y a aucun espoir. Ouais. C'est vraiment ça que ça transmet. Puis de l'autre côté, dans Blade Runner, des grands espaces vides, il y en a, mais c'est le même malaise. Je veux dire, il y a tellement
c'est
d'espace que
vide.
C'est pas de la liberté, c'est vide, il y a rien qui se passe. Puis c'est vraiment ça le malaise en fait que j'ai ressenti, mais ça m'a pris moins de temps à aimer Blade Runner 2049 que le
mais en même temps, ça fonctionne particulièrement bien avec l'esthétique que Philip K. Dick essayait de créer avec ces œuvres-là, parce que je sais pas si c'est officiel, mais pour moi, ça a toujours été un peu canon que le véritable deuxième Blade Runner, c'était Total Recall. Parce qu'il...
Ah, okay.
Ben, parce qu'il se déroule sur une...
J'ai juste vu celui avec Colin Farrell. Fait que je...
Oh, OK, ben, okay. Tu es éliminé de la conversation.
OK, merci.
Non, mais j'imagine, parce que, bon, n'ayant pas vu tout ce qu'on peut catégoriser dans horrible remake moderne, j'ai inclus Robocop aussi là-dedans, c'est pour ça. Le truc, c'est que Total Recall se pense sur ces colonies auxquelles on ne fait qu'aborder dans Blade Runner. Les réplicants existent pour être capables d'éliminer des ressources sur d'autres planètes. Et Total Recall est un film qui respire énormément parce qu'on est... Ben, en fait, pas vraiment, parce qu'on se retrouve souvent dans des stations à gauche, à droite, à essayer de gérer des trucs. Mais Mars, elle-même, est un endroit où il y a très peu de personnes. Un peu comme l'introduction de 2049 où, tu sais, Big Dave... Ouais. Ben, il est tout seul, Big Dave. Dave Bautista, excusez.
C'est Sapor Morton qui s'appelle. Oh,
ben, donc, dans ce world building-là, pour reprendre les termes de Megan, les univers urbains sont effectivement très confinés et très difficiles à vivre, mais c'est les grands espaces qui ne peuvent qu'être vécus par des... C'est des grands espaces qui sont des environnements et des écosystèmes qui ne peuvent être habités que par des réplicants. Ouais. Donc, elle est intentionnelle, cette émotion-là que tu ressens.
Ouais, parce que dans le premier, Deckard...
C'est correct, ça va. Ça va aller.
Mais si je comprends bien, en fait, c'est voulu, ce traitement de l'espace-là, parce que dans le cas du premier, Deckard, je veux dire, c'est un humain. C'est un humain. On le sait pas, puis on le sait toujours pas, c'est ça qui est cool. Mais c'est un humain, mais en fait, bon, on nous donne l'impression que c'est un humain, mais il est, il est dans des espaces confinés parce qu'il a le droit de vivre dans ces espaces-là populés, alors que j'imagine que Kay, ben lui, c'est un réplicant, donc il vit dans des espaces libres.
Tu veux dire que Deckard serait pas un réplicant?
Non, en fait, il serait un humain. On oublie toute la théorie que Deckard serait un réplicant.
Mais moi, je pense que c'est le rapport avec les classes sociales. Si on imagine que les gens qui ont des vaisseaux spatiaux sont plus riches ou ont plus de pouvoir dans la société par rapport aux personnes qui, comme aujourd'hui, sont obligées de marcher dans les rues, donc dans ces rues étroites, sombres,
pleines de poussière et de haches. C'est quoi haches en français? Cendres.
Puis comme dans le Deckard, il n'est pas censé être riche, tu sais, dans le premier, il n'y a pas ce statut, un certain statut, parce que bon, on sent qu'en créant des nouveaux réplicants qui obéissent, on leur a donné un plus grand statut, en tout cas par rapport aux autres, même si encore là, ils sont traités comme une sous-espèce.
C'est ça, exactement. Dans le deuxième film, c'est très, très clair que ce sont littéralement des esclaves et qu'ils font pas partie d'une classe sociale. Même quand, au début du film, quand Kay retourne chez lui, tu sais, il y a des insultes sur ses murs, des gens comme le détestent activement.
Il fait quand même un peu partie de la classe ouvrière, si on veut, parce qu'il y a un boss, il y a cette relation de pouvoir-là qui est un peu moins qu'une relation entre maître et esclave. Mais moi, je me souviens de la scène où le Joshi, qui est joué par
Robin Wright,
oui, c'est ça. Donc, elle arrive et elle fait un peu le scénario inversé classique de la boss qui veut utiliser justement son pouvoir sur lui en tant que patronne, mais tu sais, elle aurait pu juste lui donner un ordre pour coucher avec elle, par exemple, mais elle voulait quand même son consentement. Fait qu'il y a comme une sorte de relation de pouvoir qui est pas vraiment master-slave, là, donc c'est vraiment...
Non, puis on voit quand même qu'il est plus riche, tu sais, même s'il est méprisé, il est insulté, il est dégradé tout le long du film, on voit quand même qu'il est plus riche que toutes les personnes qui dorment dans le corridor, qui n'auront jamais accès à Joy, qui n'auront jamais accès à un vaisseau, donc il y a quand même un certain pouvoir, en tout cas des certains privilèges par rapport à d'autres personnes.
Et sa voiture.
Ça vient avec son rôle de Blade Runner. Puis en fait, il fait de l'argent selon le nombre de personnes qu'il tue. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne voudraient pas être payés pour tuer des gens. En tout cas, je dis ça comme ça, là, mais peut-être...
Pas des gens et tu des replicants.
C'est ça.
Non, mais attends,
ils n'ont pas
d'armes. Ouais, mais justement, concernant l'humanité des replicants, compte tenu, en fait, de la strate d'intelligence artificielle, je peux dire qu'ils ont rajouté dans le deuxième film avec Joy, justement. Tu sais, avant, on avait les humains. Ensuite, on avait les replicants. En tout cas, là, dans le deuxième film, on a justement l'intelligence artificielle. Puis compte tenu du...
Tu veux dire, l'intelligence artificielle holographique qui n'a pas de corps.
Oui, c'est ça. Est-ce que... Ben, en prenant ça en compte et en prenant également en compte que avec la découverte justement du truc très important, as-tu le droit de faire des spoilers ou
Ok, à partir de maintenant, on va tout spoiler. Fait que si vous l'avez pas vu, arrêtez d'écouter.
Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1.
Mais c'est fini.
Harrison Ford, c'est Dieu. Non, non, mais pour vrai, parce que la conclusion, en fait, le punch du film, c'est que bon, finalement, les Replicants peuvent concevoir des enfants naturellement. Et compte tenu de cette découverte-là et du choix, en fait, de Kay de justement sauver Harrison Ford au lieu de le tuer. De le donner à en tout cas, Body Boy, Jared Leto, là.
Wallace.
Ouais, en tout cas, oui. Wallace.
Meander Wallace.
Compte tenu de ce choix-là qui... du choix de Kay de la fin, est-ce que, au final, moi, j'ai l'impression que la finale nous donne l'impression que les Replicants sont humains, finalement.
Mais en fait, on sent qu'ils ont une agentivité. Je pense pas qu'on peut dire qu'ils sont devenus humains parce qu'ils peuvent être avoir des caractéristiques humaines ou avoir des émotions, pouvoir enfanter sans être des humains, comme on pourrait dire que c'est une autre espèce animale ou je sais pas quoi, la robotique, qui ont la même valeur que les humains sans que ce soit nécessairement. Moi, je pense que c'est plus de se questionner sur à quoi on attribue la gentilité, parce que Joy aussi peut en avoir quand elle demande de se faire enlever du
moniteur central si on veut.
C'est sa décision.
Oui, c'est sa décision, et elle demande qu'elle veut risquer la mort comme une real girl.
Ouais. Mais en même temps, c'est limité par justement le bidule qui finit par briser.
Oui, c'est ça, donc, mais c'est sa mortalité imminente fait d'elle quelqu'un. En fait, on se rend compte que c'est une illusion, que tout ça, c'est programmé aussi pour qu'elle acquiert un peu de l'importance dans l'imaginaire de son propriétaire, là.
Oui, puis qu'elle dise qu'est-ce que lui veut dire. Fait que bon, si lui voulait qu'elle pas se prendre comme une personne qui voulait avoir une agentivité, bon, peut-être qu'elle l'a pas, c'est juste...
Ouais, c'est ça, mais au final, l'important, c'est est-ce que Joy... C'est pas qu'est-ce que Joy est réellement, objectivement, à l'extérieur de tout ça, c'est le regard qu'on porte sur elle, et on avait vraiment l'impression qu'elle avait une agentivité, et aussi le personnage de Kay avait l'impression qu'elle avait une agentivité.
Ouais. Je pense que ce qui est important aussi dans la discussion sur l'humanité, c'est de rappeler peut-être, puis là c'est mon rôle de méga geek de Blade Runner qui ressort, mais de rappeler que en fait, c'est que l'idée que les réplicants peuvent avoir des enfants est vue comme cette espèce de gage-là d'humanité, et à la fois par les réplicants, à la fois par Neander Wallace et beaucoup de gens, même Lieutenant Joshi dit que ça va briser complètement l'état de la société.
Oui, c'est ça, parce que la société doit fonctionner sur la base d'une séparation entre les espèces.
Exactement.
Là, donc, en brimant cette séparation-là, en la mélangeant, il n'y a plus d'ordre et c'est le chaos.
Exactement. Mais le problème avec cette idée-là, c'est que en fait, on sait qu'il y a une réplicante qui a été capable d'avoir un enfant, et c'était une Nexus 6, si je ne me trompe pas.
Oui.
C'est-à-dire que c'était une des anciennes versions pré-blackout, celles qui ont été créées avant que Neander Wallace prenne le pouvoir et se remette à faire des réplicants. Et on sait pertinemment que les réplicants de Neander Wallace ne peuvent pas se reproduire. OK?
Il essaie de faire.
C'est ça son but, il n'est pas capable, et c'est pour ça que la pauvre réplicante naissante qu'on voit dans la scène se fait tuer
de
façon très gratuite et très rapidement.
Mais il y a aussi le fait que tu disais que Wallace il voyait ça comme quelque chose d'un gage d'humanité, mais lui il voit pas ça comme ça, c'est un capitaliste. Oui. Pour lui, les réplicants qui peuvent se reproduire eux-mêmes, c'est une façon de reproduire des réplicants de façon exponentielle.
D'avoir une armée à moindre coût.
À moindre coût, justement, ouais. D'avoir des esclaves. Pour lui, ils sont encore plus...
Ou c'est une façon de contrer l'obsolescence programmée.
Mais ce qui est intéressant carrément. Quand même...
Quoique, on sait pas.
Puis c'est ça que, je pense, le film ramène, c'est que peut-être que en fait, il y a beaucoup de gens dans le film qui pensent que le fait d'avoir des enfants te donne cette humanité-là. Mais il y a très probablement la plupart des réplicants qui ont été faits par Neander Wallace, donc la plupart des réplicants les plus jeunes réplicants qui sont dans l'armée de rebelles, dont Mariette et Kay, qui n'est pas vraiment dans l'armée, mais peu importe.
Qui veulent devenir éventuellement,
mais ils ne pourront pas se reproduire. Mais néanmoins, c'est cette compréhension-là, c'est l'acte qui a amené à comprendre que peut-être qu'à partir du moment où on est conscient qu'on n'est pas seulement des robots, on est peut-être plus qu'humain. Puis en fait, ce que Mariette dit, c'est « we're more human than humans ». En tout cas, il y a peut-être cette idée-là que c'est emmené, l'humanité est amenée par le fait d'être capable de procréer, mais que c'est seulement utilisé comme moyen de réaliser son humanité, tu sais.
Mais moi, je pense que c'est juste, tu sais, je pense qu'il faut dépasser aussi la question de l'humanité, parce que bon, si on se dit que pour être humain, réellement, il faut pouvoir procréer, ça élimine quelques personnes. Ouais. Donc, c'est très problématique.
Ça en élimine deux, trois.
Ça en élimine une couple, donc ça, c'est déjà très problématique. Mm-hmm. Tu sais, peut-être qu'il faut le voir d'un côté antispéciste, comme si demain, on découvrait que les chats avaient le langage et la conscience, on comprendrait qu'on est en train de les traiter, bref, tous les animaux, on est en train de les traiter comme des esclaves, comme des moins que rien. Donc, c'est un peu cette conscience-là que, parce que dès que les réplicants ont des émotions, ont une conscience, ont une action, qu'est-ce qui les différencie? Donc,
à la différence des chats, les réplicants sont créés par les humains.
Oui,
c'est cette nuance-là.
Mais oui, parce qu'il veut être né et non être créé. Ouais, c'est ça la différence.
La naissance là-dedans, c'est pas un gage d'humanité d'être né, mais c'est juste symbolique pour dire « Ah, on peut être humain comme vous. »
Remarque, ça a l'air d'être Joy dit que elle dit à Kay quand elle pense que c'est lui l'enfant de Rachel.
L'enfant prodige.
Elle dit comme « You're born. » Pour elle, il y a l'idée qu'être né, to be born, est importante dans le fait de pas d'être born and not created, tu sais, né et pas créé.
Pour Kay aussi, parce qu'il se questionne en se disant, bon, après, c'est très religieux, là, il se dit que si on est avec une âme, donc ça, c'est différent d'un réplicant qui a été créé, donc qu'est-ce que l'humain créerait, aurait pas, cette spiritualité, donc finalement, ce qui les différencie, c'est la
Mais la spiritualité, c'est une croyance. C'est une croyance. On peut être réplicant et croire.
C'est pour ça que dès que Kay se met à croire, il acquiert un nouveau statut parce qu'il a la foi envers lui-même.
Ouais. Envers lui-même, envers sa propre existence.
Mais en fait, pour revenir, j'essaie de ramasser un peu tout ça pour aller vers une idée, mais pour revenir à tout ce qui est procréation, justement, et agentivité, en ce sens-là, est-ce que justement les replicants ne seraient pas plus humains? Parce que on apprend à un moment donné que pendant le film que justement le personnage d'Harrison Ford, Deckard, aurait probablement été manipulé pour créer un hybride.
Mm. Ben, je pense que c'est.
Alors que les replicants ont le choix et même Kay a eu le choix. Il y avait le choix entre deux. Il a choisi le troisième choix. T'sais, il y avait le choix entre tuer Harrison Ford ou le ramener ou bon, peu importe. Et il a décidé, il a pris la troisième opportunité qui ne lui avait pas été offerte.
Oui, c'est ça, parce que c'était son choix à lui.
Il a créé un choix.
Oui, mais c'était sa décision de faire ça. Et pour lui, l'important, c'était pas nécessairement de faire la révolution, c'était de faire l'acte humain de compassion et d'empathie et de rassembler des gens qui devaient être rassemblés, même si ça ne le concerne plus. Et pour lui, ça, c'était le choix humain à faire. Plus que de tuer Harrison Ford pour protéger une révolution.
Donc, exactement, je pense que c'est
cette agentivité-là de liberté un peu chaotique qui fait de lui more human than human, exactement.
Puis les réplicants, ils montent à plusieurs reprises. Love, quand elle va tuer la chef du poste de police, elle dit juste avant de mourir, je vais dire, c'est ça le problème, tu penses qu'il t'a pas menti parce que vous pensez, vous, que les réplicants ne peuvent pas mentir. Mais moi, je vais dire à Wallace que tu t'as tiré la première, puis il y a là-dessus. Donc, Wallace lui-même croit que ses créatures lui sont soumises, puis elle en rit, là, elle est comme, je vais lui dire ce qu'il veut entendre, puis moi, j'aurais fait un autre choix en amont.
D'ailleurs, est-ce que vous avez essayé d'entendre, on a un petit débat, peut-être qu'elle...
Non, on était voir une représentation, je sais de quoi tu parles, mais avec des sous-titres, et elle dit, c'est ça, vers la fin du film, quand qu'elle... Et ça, c'est très important pour qu'est-ce qu'on est en train de dire, là, donc quand qu'ils se battent sur le bord de l'eau, là, avec le vaisseau et tout, Kay et Love, elle dit « I'm the best one ».
C'est ça.
Mais ça prouve aussi que chaque réplicant, comme chaque humain, veut montrer justement qu'il c'est un être spécial qui cherche justement à l'unicité, ben, de façon à devenir unique, là, si je veux dire.
Oui.
Je sais pas si je l'ai bien dit, là, mais...
Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça, c'est parce que l'autre option qu'on avait peut-être entendue, c'était « I'm the real mastermind ». Et donc, si elle avait dit ça, ça aurait peut-être changé complètement la relation de pouvoir entre elle et Wallace. Mais bon, c'est pas le cas, on va revenir. Mais même « I'm the best one », en fait, rétablit justement cette idée-là de toujours essayer d'être « the one ». Tu sais, Kay pensait qu'il était « the one », puis finalement, c'est pas lui. Puis, je me souviens plus du nom de la madame de la Révolution qui dit comme
«
tu pensais que c'était toi ». ben, tu sais, on aimerait tout ça que ce soit nous. Mm-hmm. On aimerait tout ça être la personne spéciale.
De la manière où on est tous le personnage principal de notre propre vie. Donc, on pense toujours qu'on est plus spécial que les autres. Mm-hmm.
Exactement. Puis, ouais. Je pense que Blade Runner 2049 est un film dans lequel tous les gens qui pensent qu'ils sont des protagonistes ne le sont pas. Mm-hmm. Fait que ça, c'est, je pense que c'est remettre la perspective sur, tu sais, du niveau micro au niveau macro.
Mais, et ça me permet de faire une transition qui est totalement qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce qu'on avait envie de répondre aussi un peu aux critiques qui ont été faites sur les représentations des personnages féminins dans le film, et c'est directement en lien avec ce type de discours-là.
Absolument.
Parce que tous les personnages féminins, c'est sûr qu'on a vu, peut-être que le film passe le test de Bechdel comme pendant 2 secondes, mais c'est tout, parce que les personnages féminins ne se parlent pas vraiment. Pour rappeler rapidement, le test de Bechdel, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 2 personnages féminins avec des noms et qu'ils se parlent et qu'ils ne se parlent pas d'un protagoniste masculin. Donc, je pense que la dernière fois qu'on est allé le voir, on est allé le voir à 2 reprises. Toi, Roxane, tu l'as vu 3 fois.
Moi, 3 fois, oui.
J'ai regardé, puis je pense que ça passe pendant comme une fraction de seconde. Là. Il y a peut-être un morceau de dialogue qui pourrait le passer, mais sinon...
Quand ça... Love
vient pour tuer Lieutenant Joshi, puis un moment donné, il parle un peu de qu'est-ce que l'avenir de l'humanité va devenir.
Ah ouais, tu vois, moi, j'aurais cru qu'il l'aurait pas passé, le test, justement. J'ai comme l'impression qu'il parle de Kay.
Mais il parle de Kay, puis à un moment donné, la conversation dévie rapidement. Ah. Mais c'est d'où le...
Une fraction de seconde.
C'est ça, il se met à parler de Wallace. Fait.
C'est ça. C'est vraiment dans la transition entre les 2 personnages masculins. Mais... En même temps, c'est pas un film qui est basé sur le dialogue. C'est un film qui est construit en monologue.
Absolument.
Ouais. C'est vraiment un film...
Les personnages ne se parlent pas.
Ils parlent. Exactement, oui. Ouais. Puis, j'ai lu aujourd'hui... Ben en fait, vous l'avez lu aussi parce que je vous l'ai envoyé, mais un article sur le fait que le test de Bechdel a de la misère à être passé par les œuvres de science-fiction, parce que les œuvres de science-fiction ne présentent pas un monde qui est dans le contexte réaliste actuel. Le test de Bechdel est super bon pour évaluer des films de rom-com ou des films qui se passent dans notre réalité à nous.
Exact.
Mais c'est l'affaire avec les films de science-fiction, c'est souvent soit des utopies, mais le plus souvent aussi des dystopies. Et c'est pas fait pour représenter le monde tel qu'il est, mais c'est plus comme une espèce de miroir déformant du monde dans lequel on est. Et Blade Runner, c'est une dystopie. Et aussi Blade Runner 2049, c'est une dystopie qui est le prolongement de l'univers qui a été créé en 1982 au cinéma, qui était très, très misogyne, on va se dire. Mais c'est ça.
Très sweet lord, oui.
Oui, mais en même temps, c'est très conséquent que cet univers-là, de 1982, je sais pas en quelle année ça se passait, le film...
2019.
Ah, c'est ça. Cet univers-là de 2019, 30 ans plus tard, est tout aussi misogyne, un petit peu moins, mais quand même encore beaucoup, et évaluer l'agentivité des personnages féminins, parce qu'ils sont tous soit replicant ou hologrammes, ou Lieutenant Joshi, qui est une humaine.
Qui est une humaine, oui.
Mais c'est ça. Mais il y a aussi une très grande variété de personnages féminins, mais je pense pas qu'on peut évaluer la représentation des personnages par rapport à ce test-là tel qu'il est formulé en ce moment. Dans l'article, l'autrice suggérait qu'il fallait pas s'attarder aux règles du test, mais plus à son essence, qui était vraiment plus une manière d'évaluer si le personnage féminin pouvait avoir, à l'extérieur du film, son autonomie, si on avait l'impression qu'elle avait une vie à l'extérieur de ce film-là, même s'il n'était pas explicitement représenté, surtout pas nécessairement par des dialogues, parce que ça commence à faire, là, essayer d'évaluer tout le monde par leur dialogue.
Là. Sérieux, là.
Ouais. Parce qu'on avait parlé aussi un peu dans Stranger Things, donc le personnage de Elle a comme 4 lignes dans toute la première saison, mais en même temps, ça fait un personnage très complexe. Alors, est-ce qu'on baserait le test de Bechdel sur le dialogue exclusivement? Non. Mais il y a plusieurs manières de mesurer la gentilité de ces personnages-là dans Blade Runner 2049.
Puis aussi, il faut rappeler que c'est un monde oppressant, un monde violent dans lequel personne n'a envie de vivre. Puis c'est quand même les moi, ce que je trouve, c'est quand même les femmes, c'est avec peut-être une prise de contrôle conventionnelle politique où il y aura un chef ou qu'on irait dans cette voie-là, mais en amont, justement, de façon souterraine, c'est les femmes qui mènent la révolution. C'est Anna qui risque l'illégalité en mettant ses propres souvenirs dans la tête des réplicaines, mais aussi en créant leur humanité, en leur donnant la joie, en leur permettant de vivre dans l'atrocité du monde. Donc, c'est toujours... C'est une femme qui mène la révolution. C'est... Puis il y a toujours ce petit côté-là entre... qui croit justement être unique, puis on a toujours envie de... Moi, ce que j'avais un petit sourire de « ben, c'est sûr, t'es un homme, donc tu penses que c'est toi ». Donc, alors que c'est... Tu sais, il y avait le choix entre « ah, c'est une fille ou un garçon », parce que les... l'ADN correspond aux deux identités de genre. Donc, on comprend finalement qu'à la fin que c'est une fille. Donc, je trouve que ça joue quand même avec nos préconceptions sexistes qui nous feraient tendre vers l'idée que ce serait un homme entre une fille et entre une femme et un homme, lequel peut mener une révolution. C'est un homme, mais finalement tout le monde est trompé. Non, c'est une femme emprisonnée dans une cage de verre qui
même... Ça parle quand même beaucoup, là, une femme emprisonnée dans une cage de verre qui plante l'insoumission littéralement dans les cerveaux.
Oui, puis ça joue aussi sur ce que la personne qui lead en ce moment la révolution veut, parce qu'elle veut qu'elle devienne une leader qui va mener la révolution armée, alors qu'elle mène déjà la révolution, mais d'une façon, d'une autre façon. Donc, on voit comment la stratégie des tactiques. Ouais.
C'est insidieux, mais elle joue dans le système aussi. Là. Mm. Mais de façon insidieuse, elle subvertit de l'intérieur carrément.
Puis elle est très consciente parce qu'elle dit que Wallace l'engage pour pouvoir stabiliser les réplicaines. Mm. Alors, elle dit, puis elle dit, ah ben non, c'est les vrais souvenirs. Ça se peut pas, c'est illégal. On est engagé pour stabiliser les réplicaines, alors que qu'est-ce qu'on apprend, c'est qu'elle est pirate depuis le début.
Mais oui, c'est en effet. Puis moi, ce que je trouve intéressant à souligner aussi avec les personnages féminins, on avait lu une critique récemment, je me souviens plus exactement, je pense que c'était Martine Delvaux qui disait que le film n'était pas féministe parce qu'elle n'arrivait pas à se reconnaître dans les personnages féminins de Blade Runner. Et je pense que c'est un film qui n'est pas fait justement pour que tu te reconnaisses dans aucun des personnages à la base.
Non, mais tous les personnages, on peut l'affirmer parce qu'il y a beaucoup de tropes qui sont repris.
Absolument.
Là. Donc, il y a la Manic Pixie Dream Girl, évidemment. Et avec Joy aussi,
également.
Carrément. Il y a le personnage féminin un peu masculinisé avec Lieutenant Joshi qui prend le rôle d'homme, mais c'est une femme.
Et Love.
Et Love, évidemment.
Qui est comme l'espèce de power maman qui gère tout, là.
Mais aussi, genre, elle viole Kay après avoir essayé de l'assassiner en l'embrassant puis en le pichant dans l'eau. Elle l'agresse.
Oui. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de tropes, il y a beaucoup de clichés.
Oui, mais c'est des clichés qui appartiennent au monde de la science-fiction, puis il faut en tenir compte. On peut pas non plus, comme tu disais un peu tantôt, là, tu sais, on parle du Bechdel test pour les films qui se passent dans notre réalité, dans notre monde, puis là, on peut un peu plus évaluer les dialogues, mais on peut pas juste dire, parce qu'un personnage correspond à un trope, à la base, c'est un mauvais personnage féminin. Je pense qu'il faut aussi arrêter d'imposer notre lecture de ce qu'est un film féministe parfait
aussi,
sur les films et essayer plutôt de voir ce que les films apportent comme réflexion.
Mais aussi, c'est très présent dans la culture pop en ce moment, mais puis Blade Runner, il le fait à merveille, c'est que c'est basé sur le recyclage. Il le fait, il réutilise des dialogues du film de 1982 à la perfection là, pour justement subvertir chaque recyclage, chaque reprise, chaque trope est comme un peu détourné, un peu comme déformé, je sais pas comment le dire, mais on dirait, c'est sûr qu'on a le personnage travailleuse du sexe avec Mariette, mais elle a une agentivité que n'importe quel autre personnage de pleasure model dans le film de 1982 aurait jamais eu.
Jamais.
Elle a une personnalité, même si elle dit absolument rien, elle dégage ça aussi.
Et aussi, on sent une réflexion. Bon, c'est pas une réflexion qui aboutit, tu sais, c'est une piste. On est dans un cheminement, on est vers une révolution. Puis on sent le regard vers ce qui s'est passé en 30 ans. Parce que quand ils reprennent, on disait qu'ils recyclent le premier film, puis à un moment donné, quand ils font passer des petits fragments qui restent d'avant le blackout, puis on entend la conversation où c'est Deckard qui la questionne, puis elle finit en disant tu veux savoir si je suis humaine ou si je suis lesbienne.
Ouais.
Donc, mais avec nos yeux d'aujourd'hui, ce choix-là pointe aussi le sexisme du premier film, tu sais, nous fait sourire un peu jaune en se disant ouais, c'était vraiment c'était lourd, mais j'ai pas trouvé que le deuxième film voulait nous faire accepter ce que le premier film disait justement. Il voulait voir l'évolution. Là, tout le monde est un peu mal à l'aise quand que ça joue. Il y a tout un rapport à ça.
Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la scène de c'est pas vraiment du sexe, mais c'est la superposition des corps de ouais. Mariett et Joy. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'espèce de ces deux archétypes-là de Manic Pixie Dream Girl qui se superposent l'une à l'autre.
Ouais, c'est dans l'article.
Oui, exactement.
Elle disait « Two Manic Pixie Dream Girl does not a woman make ».
Exactement. Donc, bon, il y a toute cette espèce d'idée-là du corps en déphasage qui est super intéressant avec ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme l'espèce d'accomplissement parfait du male
fantasy, gaze aussi,
du male gaze, du trip à trois avec deux femmes. Puis là, moi, je l'avais vraiment pas vu comme
en
ça,
même temps,
honnêtement.
Comme pour rappeler le fait qu'on pouvait pas s'identifier, moi, je m'identifiais beaucoup au désir de Joy de pouvoir prendre corps, de pouvoir s'incarner, ouais. de pouvoir toucher aussi, d'attirer le désir, mais aussi de désirer, même si elle est programmée pour le faire. Il y a quelque chose de très humain dans ce désir-là, de désirer l'autre et de désirer toucher. Là.
Puis on se demande aussi jusqu'où la programmation va, parce que ce qui est aussi programmé, puis là, on lui accorde plus d'agentivité à lui, donc à elle. Est-ce que encore là, tu sais, les réplicantes, est-ce parce qu'ils peuvent pas enfanter, donc ils seraient pas humains, alors que elle, ce serait parce qu'elle n'a pas de corps, donc jusqu'où on peut travailler cette idée-là de la corporalité pour savoir où la programmation arrête. Bon, donc on se demande, c'est une question de science-fiction, là, l'intelligence artificielle, jusqu'à quand ça va donner une agentivité?
Mais tu sais, la question, en fait, je pense que c'est intéressant de parler de Joy, parce que pour moi, Joy est une des plus grandes réussites du film, honnêtement, parce que justement, tu disais tantôt qu'on réussit à rendre le spectateur presque, je dirais, comment t'appelles ça, des gens qui se... on va changer de mot, mais complices, voilà. Ouais. Des gens qui on rend complices de cette espèce de passage-là entre l'intelligence artificielle et l'humanité en la montrant toujours comme très empathique. On force un peu le spectateur à être empathique face à ce personnage-là, puis on la détruit, puis ensuite on montre que peut-être elle était justement juste programmée pour avoir ces réactions-là. Puis je pense que c'est dans un des articles qu'on avait lu un peu plus tôt aujourd'hui où ils disent que, dans le fond, peut-être que ça a pas d'importance. Si elle était programmée pour aimer Kay ou pas, l'important est peut-être justement dans le fait que ces sentiments-là ont existé pour ces deux êtres-là.
Même s'ils sont programmés, les
programmés ou pas, ça n'a pas d'importance. Peut-être que justement, le fait que Kay ait sincèrement aimé Joy et que Joy ait sincèrement aimé Kay jusqu'à un point où elle a un peu abandonné son espèce d'immortalité pour être avec lui, peut-être que ça, c'est suffisant pour parler d'une espèce d'essence de l'humanité, de ces machines-là, si on veut.
Oui, puis tu sais, c'est une question qui revient assez fréquemment récemment dans les films de science-fiction, avec Air aussi, c'était la même question. À un moment donné, il fait venir une fille pour pouvoir coucher avec la personne qui entend dans son oreille.
Oui, avec Scott Johansson puis Joaquin Phoenix,
ouais.
C'est ça? C'est le film de... Je pense que c'était Spike Jonze, ça se peut-tu?
Oui, Spike Jonze.
Oui?
Spike Jonze, de mémoire, oui.
Puis je l'ai vu dans plusieurs films récemment de science-fiction, justement, ce trope de la personne immatérielle qui développe des sentiments, puis que les deux...
Ex machina aussi, même chose.
Puis là, ça revient avec des questions très contemporaines de est-ce que les relations à distance, quand on s'écrit sur Facebook, c'est réel?
Est-ce que la technologie rend ces relations-là moins vraies? Je pense pas, moi.
c'est ça, on parlait un peu des modes de communication récemment. Est-ce que la manière dont on se communique, ces sentiments-là, a vraiment de l'importance? Est-ce que le fait que Joy ait pas de corps l'empêche d'avoir des sentiments et empêche Kay d'avoir des sentiments envers cette personne-là? C'est une question ouverte, là, mais... moi, je pense que non.
Okay? Le cinéma de science-fiction essaie encore d'y répondre.
Il va toujours essayer, je pense. À moins qu'on arrive bientôt à faire l'expérience de ces trucs-là nous-mêmes. Et là, on va pouvoir y penser en tant que bon universitaire. On va pouvoir se pencher sur la question
dans plusieurs années. Ouais. Si on va satisfaire Jim, donc dans plusieurs années, on va pouvoir revenir.
On va satisfaire Jim aussi parce qu'on n'a pas réussi à avoir le temps de parler de Dune. Je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à dire.
Moi, j'ai espoir. Je pense que, je pense que le ton de Arrival, pardon, et Blade Runner 2049 se prête bien à l'œuvre de Dune. Donc, j'ai espoir, je croise mes doigts, puis on verra.
C'est bon.
Ça peut pas être un film de 2h30 seulement.
Non.
Non, mais c'est 3 films, je pense. Officiellement, ça va être 3 films.
J'ai hâte de voir.
Films de 3h, ça me va.
C'est bon, là, 9h de film, je pense qu'il va peut-être réussir à cerner quelque chose. Peut-être plus que qu'est-ce que David Lynch a fait.
Oh, j'ai encore des flashbacks post-traumatiques de Jodorowsky's Dune dans le tête.
Ouais, on n'aura pas d'Ali dans celle-là. Mm. Bon, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Juste mentionner aussi Denis Villeneuve, à savoir un doctorat honoris causa de l'UQAM, ouais, les 5 et 6 décembre prochains. Donc, c'est tout à propos de parler de lui aujourd'hui. Et en espérant qu'on ait réussi à peut-être cerner quelque chose, même si c'était à chaud et pas très distancié du film, de l'œuvre et de son visionnement. Mais on va essayer d'avoir peut-être... créer peut-être un document d'archives de critiques à chaud, ouais.
Non? Comme dirait le Journal de Montréal, bravo Denis.
Bravo Denis.
Pour les études de la réception plus tard, on fait ça pour les études sur la réception.
Ah, dans un an, on va en reparler. Et pour l'instant, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock.